Bonjour à toutes et à tous sur les ondes de Radio G 101.5 FM. Voici le temps de l'émission Les Plantes Vagabondes, proposée par Le Plantis à Écuyer, l'espace de coworking rural, collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Cette émission est animée et écrite par Claudie, ingénieur paysagiste conseil. Au fil des saisons, je vous invite à la découverte de l'histoire, des légendes et du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Grande nouveauté, cette émission accueille la toute première chronique « Le bonheur est dans les simples » présentée par Élise et Christelle et qui parlera de recettes et de savoir-faire en lien avec les plantes. Au fil des émissions, nous vous invitons à modifier votre regard sur les plantes sauvages et inventer de nouveaux paysages et de nouvelles histoires dans vos jardins en y invitant la flore spontanée. J'ai eu le bonheur d'assister fin septembre à une conférence de Rob Hopkins, venu spécialement à Angers pour s'exprimer sur le thème de la transition écologique. Ce dernier a insisté sur la nécessité de libérer notre imagination et notre créativité à travers un petit exercice salutaire pour nous libérer de nos habitudes et du conditionnement que nous subissons en utilisant tout simplement l'expression « et si ». Deux petits mots pour rêver, passer à l'action et cesser de chercher des excuses pour ne pas faire. Et si nos villes redevenaient perméables, nous offrant un paysage verdoyant, accueillant et grouillant de vie? Et si le chant des oiseaux et le rire des enfants remplaçaient le vrombissement des moteurs? Et si les rues, les places et les parkings reprenaient vie? Et si le parfum des fleurs et des pollens nous libérait de la puanteur des gaz d'échappement? Et si nous commencions cette nouvelle émission en laissant la parole aux liserons, plantes à la fois détestées et adorées des jardiniers? Cette attitude ambivalente vis-à-vis des liserons apparaît dans tous les résultats de moteurs de recherche en tapant tout simplement le mot « liseron ». On y trouve en effet entremêlées des expressions catastrophiques comme « calamité des jardins »,« plantes envahissantes »,« étouffe vos arbustes »,« comment s'en débarrasser », »,« le meilleur des herbants pour les éradiquer » ou mieux « bâcher vos massifs ». Et en parallèle, des termes comme « super couvre-sol »,« jolie grimpante à la floraison élégante ». De quoi devenir schizophrène, non? Alors, liseron ou pas liseron? Commençons en introduction, pour illustrer cette approche contradictoire, par un poème, Le Liseron, écrit en 1839 par le talentueux Alphonse de Lamartine. Dans les blés mûrs, un soir de fête, la jeune fille me cueillit. Dans ses cheveux noirs sur sa tête, ma blanche étoile rejaillit. Fleur domestique et familière, je m'y collais comme le lierre se colle au front du dahlia. Sa joue en fut tout embellie. Et puis j'en tombai froide et pâlie, son pied distrait me balaya. Mais le matin, sous sa fenêtre, un passant me vit par hasard, se pencha pour me reconnaître et me couva d'un long regard. « Viens, dit-il, pauvre fleur sauvage, viens, mon amour et mon image, objet d'envie et de dédain, viens sécher sur mon cœur posé, mes larmes seront arrosées, mon âme sera ton jardin. » Depuis ce jour, rampant dans l'herbe, je m'enlace autour d'autres fleurs. J'abrite leurs tiges superbes et je relève leurs couleurs. Et quelquefois, les jeunes filles me fauchent avec leurs faucilles pour en faire un nuage à leur front. Je nais pâle et toute fanée. Je suis le lierre d'une année. Foulez les pauvres liserons. Dans l'Égypte ancienne, cette plante très résistante, qui pousse en s'enroulant sur les papyrus et ouvre ses fleurs en direction du soleil, est un symbole de fertilité, de maternité, mais aussi de renaissance. Une légende grecque raconte qu'une jeune fille et son amant avaient un oiseau comme messager. Une flèche destinée à l'oiseau transperce malencontreusement le cœur de la jeune fille. La déesse Vénus, que l'amour des jeunes gens attendrit, transforme la jeune fille en liseron, et le jeune homme, inconsolable, en crocus. Le terme de liseron trouve son origine dans la forme de ses fleurs à la forme évocatrice de lys. Une légende chrétienne raconte que pour vêtir Marie Lors de sa descente du ciel, Dieu lui confectionna une chemise en utilisant les corolles du liseron des haies. C'est ainsi que le liseron porte le nom de chemise de Notre-Dame ou de robe de la Vierge. Plusieurs fois mentionné dans la Bible, le lys, à partir de la Renaissance, est en effet la fleur attachée à la figure de Marie. Il symbolise une beauté pure et céleste, ainsi que l'amour chaste. L'observation attentive des plantes de la nature permet de constater l'existence d'une horloge interne chez les végétaux, comme une invitation à retrouver notre propre rythme biologique. Le surnom de belle de jour est lié à sa faculté de se refermer à la nuit tombée, comme celle de la pâquerette, déjà évoquée dans une émission précédente que je vous invite d'ailleurs à réécouter. Ainsi, la fleur du liseron est une excellente horloge florale. Elle s'ouvre entre 8h et 8h30 et se ferme vers 16h. Heure solaire, bien entendu. En outre, elle prévoit la pluie. Si le liseron n'ouvre pas sa corolle avant 10h du matin, il pleuvra dans la journée. De la même façon, les fleurs, pour prolonger leur floraison, ont la capacité de s'orienter vers la lumière ou de se refermer au moment d'une averse pour préserver leur délicate corolle. Un proverbe dit ainsi « Quand le petit liseron referme ses cloches blanches, les bergers ramènent leurs troupeaux, la pluie n'est pas éloignée. » Sa croissance, rampante au ras du sol, alliée à la délicatesse de ses fleurs, font aussi du liseron l'emblème de l'humilité. L'écrivain et poète Henri Murger l'évoque de cette façon. « Aimer le liseron, cette fleur qui s'attache au gazon de la tombe, à l'agreste rocher, triste et modeste fleur qui dans l'ombre se cache et frissonne au toucher. » Allez, il est temps de poursuivre en chanson avec Guy Béard et les fleurs de mon jardin.
Sont des musiques de métal. Les fleurs de mon jardin font un accord instrumental. Le vent qui va les fait teinter en mille notes éclatées. J'écoute leur parfum, c'est un refrain sentimental. Mon la, c'est ce qui l'a dit. Il boit l'eau de mes soucis. Les fleurs de mon jardin ont des pétales de concert. Le bourdon baladin pianote dessus ses vieux airs. Leur tige qui descend au sol, c'est bien sûr une clé de sol. Leurs feuilles d'acier fin parlent d'amour à mots couverts. Mon la, c'est ce qui l'a si. Il boit l'eau de mes soucis. Les fleurs de mon jardin, quand on a voulu les couper, se sont changées soudain en lance, en fusil, en épée. Le chèvrefeuille est un radar qui défend ce vieux nénuphar. Puis le feu s'est éteint sous une branche d'olivier. Mon la, c'est ce lilas-ci. Il boit l'eau de mes soucis. Les fleurs de mon jardin ont oublié tous les méchants. Et voyageant plus loin, ont épousé les fleurs des champs. Et le métal de leurs chansons, entortillé de liserons, va donner pour demain un nouveau monde éblouissant. Va donner pour demain un nouveau monde éblouissant.
La famille des liserons regroupe de nombreuses espèces. Les plus connues dans nos régions sont le liseron des haies et le liseron des champs. Affectionnant les expositions ensoleillées, le liseron des haies se développe de préférence sur les berges des rivières ou le long des fossés, là où les sols sont frais et humides. Sa croissance vigoureuse lui permet de recouvrir de grandes surfaces. Sa tige peut atteindre jusqu'à 5 mètres de long et produire jusqu'à une fleur par jour. Volubiles, elles croient en spirale, dans le sens des aiguilles d'une montre, s'accrochant sur tout type de support. De cette façon, le liseron recouvre joyeusement grillage, clôture, végétation et haies. La présence de nombreux poils lui permet de s'agripper solidement à leur support sans glisser. Ces feuilles au vert sombre sont reconnaissables grâce à leur forme de lance pourvue de deux lobes à leur base. En même temps que les tiges aériennes se développent, le liseron forme un réseau de tiges souterraines appelées rhizomes, sur une profondeur de plus de 20 cm. Ce réseau très ramifié le rend très résistant à la sécheresse. Il reste ainsi vert en toute saison, ce qui a d'ailleurs fait regretter de l'avoir supprimé des massifs qu'il désherbait, un jardinier que j'accompagnais en formation. Les massifs horticoles esselés paraissaient bien tristes et maladifs après son intervention. Comme le liseron meurt dans l'année qu'il a vu naître, il a adapté son développement en conséquence. De juin à septembre, la floraison se poursuit sans interruption. Sa délicate corolle blanche, à la forme en trompette si reconnaissable, ne comprend qu'un seul pétale. Il produit des capsules renfermant plusieurs graines que le vent déplace ensuite vers d'autres contrées. Les graines se déposent ainsi partout dans la végétation, guettant le moment propice pour germer. Très riche en nectar et mellifères, les fleurs attirent de nombreux butineurs, insectes et papillons, à l'instar du sphinx du liseron. L'installation des liserons dans les vergers et les potagers facilite la pollinisation et la formation de fruits pour le plus grand bonheur du jardinier. Si vous possédez un clapier, sachez que les lapins raffolent des feuilles de liseron, leurs feuilles préférées, juste après celles de l'ortie. Les chevaux, eux aussi, aiment brouter leur feuillage juteux. Il est temps de retrouver la séquence interview dans un format exceptionnel cette fois. Et si les plantes pouvaient communiquer avec nous, quel message nous transmettraient-elles? Nous avons essayé en exclusivité la télépathie. Élise s'est chargée de nous retransmettre les propos du liseron des champs et lui a prêté sa voix. C'est parti! Bonjour Élise, merci de participer à ce temps d'échange un peu particulier, on va dire. Donc j'ai une première question à poser au liseron des champs, qui est un cousin du liseron des haies. Et en fait, en clair, qu'est-ce qui le distingue, lui, de son cousin liseron des haies?
Alors, bonjour Claudie, bon, je vais essayer d'être l'interprète la plus fidèle du cousin du liseron des haies. Alors... Attends, je me branche. Ok, c'est bon. Alors, en fait, il est en train de me dire qu'il est beaucoup plus rampant que grimpant. Par rapport à son cousin des haies, les fleurs sont plutôt rosées. Les feuilles sont plus petites, un peu en forme de flèche.
Ah ben très bien, au moins ça nous permet de voir une différence facilement visuelle, facile à retenir. Et donc, une deuxième petite question au liseron des champs. Comment il ressent en fait ce désamour parfois qu'il peut ressentir, le fait qu'on l'arrache systématiquement, comment lui, il vit la chose?
Alors, je lui pose la question. Eh ben en fait, il a vraiment du mal à comprendre. Parce que de tout temps, ses fleurs et son feuillage ont été appréciés. Et il me dit qu'en fait, on le retrouve depuis toujours dans de nombreux motifs ornementaux, dans les temples, les demeures, l'architecture, les bijoux, même la vaisselle, et même en couronne dans les chevelures. Donc, il comprend pas.
D'accord. Et alors, est-ce qu'il a une... Est-ce que c'est vrai qu'il a envie d'étouffer les plantes comme ça? Est-ce que c'est...
Alors là, il s'énerve un peu. Mais non, pas du tout. Pas du tout. En fait, là où il se sent bien, il s'installe, tout simplement, mais il fait toujours attention aux plantes qui l'entourent. Encore une fois, c'est une question d'harmonie dans le collectif. Et en fait, non, il est en train de me dire que simplement, quand il a suffisamment de matière organique pour lui, il s'installe et puis simplement, il se sent bien, donc il reconnaît qu'il peut prendre un peu de place par moment, mais c'est pas du tout dans le but d'étouffer quoi que ce soit. Et même, il est en train de me dire que là où vous avez des orties et là où vous n'en voulez pas, eh ben, il peut s'installer tout simplement pour limiter l'endroit où vous ne voulez pas d'orties.
Ah, bah écoute, Élise, merci à toi pour ce temps d'échange qui n'était pas évident. Eh ben, merci encore d'avoir participé à cette expérimentation.
Merci Claudie pour cette expérience insolite.
Dans les jardins, le lison est une catastrophe pour les jardiniers fans de désherbage. La profondeur et la ramification des rhizomes rend inefficace leur arrachage, à tel point qu'on le surnommait même autrefois « boyau du diable ». À y réfléchir de plus près, il paraît intéressant d'observer les causes de son apparition. Un surdéveloppement d'une herbe sauvage dans la végétation révèle souvent des carences minérales et métalliques dans les sols. Il apparaît ainsi que le lison a tendance à se développer dans les sols pauvres en bore. Plutôt que de semer et d'entretenir de coûteux gazon, laisser courir le lison aurait l'avantage d'avoir un tapis toujours vert, et ce même en période de sécheresse. Les fleurs attirent et nourrissent de nombreux insectes et butineurs, favorisant gratuitement les cycles biologiques. Elles sont d'ailleurs plus appréciées que les mélanges fleuris vendus en jardinerie, si capricieux à mettre en place. Les tiges s'utilisent aussi comme lien pour attacher les tomates sans les blesser. Il existe une variété à la floraison bleue, l'hypomée ou volubilis, que ma grand-mère adorait voir grimper et fleurir le long de sa pergola. Elle récoltait soigneusement des graines pour l'année suivante et aussi en donner aux copines, car le jardinage, c'est aussi donner et partager les richesses de la nature. Outre sa gracieuse floraison, les racines et les feuilles de liseron possèdent des vertus purgatives douces, connues depuis l'Antiquité et encore utilisées de nos jours, comme par exemple sous forme de tisane, de feuilles et de fleurs fraîches. Les médecins arabes du Moyen-Âge utilisaient ces racines contre la jaunisse et les maladies du foie. Les graines de liseron, mêlées au duvet de l'oreiller, bloquent les cauchemars, vecteurs de force négative, et favorisent les rêves de bonheur, chargés d'énergie positive. Pour cela, il suffit de mettre 2 ou 3 poignées par oreiller, en répartissant bien les graines parmi le duvet, retourner l'oreiller chaque soir et redonner quelques tapes. Notez vos rêves au matin. Vous serez surpris. Bon, il est temps de rejoindre Christelle pour la toute première chronique « Le bonheur est dans les simples » pour nous parler aujourd'hui de réflexologie.
Je m'appelle Christelle Vessier et en tant que réflexologue plantaire à Briolet et au Planty, je souhaite aujourd'hui vous parler de l'histoire et des bienfaits de la réflexologie. Les origines de la réflexologie sont millénaires. Une fresque de l'Égypte antique qui figure sur le tombeau d'Ankh-Mahor, situé dans la ville de Saqqara, représente des soins de réflexologie plantaire et palmaire. Les hiéroglyphes signifient « ne me fais pas mal », ce à quoi le praticien répond « je ferai en sorte que tu me remercies ». En Chine, la réflexologie apparaît il y a 4000 ans. Malheureusement, en 221-206 avant notre ère, beaucoup de livres furent interdits pour effacer les connaissances du passé. La pratique de la réflexologie a alors presque disparu. C'est vers 618-907 de notre ère qu'un moine japonais a repris l'étude et la pratique de la réflexologie pour l'introduire au Japon. En Occident, à la fin du 19e, début 20e siècle, des médecins ont constaté que des pressions exercées sur des parties du corps entraînaient des effets sur d'autres parties plus éloignées. Au début du XXe siècle, le docteur Fitzgerald, un otorhino-laryngologiste, découvre que non seulement la pression soulage la douleur, mais qu'une fois la douleur disparue, la condition qui l'a provoquée est souvent améliorée. Le docteur Fitzgerald élabore alors la thérapie zonale, qu'il nomme analgésie zonale. Au début des années 30, Eunice Singham, une kinésithérapeute américaine, reprend les travaux du docteur Fitzgerald et concentre son travail sur les pieds, car elle constate qu'ils sont plus sensibles que les mains. Elle a travaillé sur des milliers de personnes et elle a mis au point une cartographie des zones réflexes plantaires. Elle a poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 80 ans. La réflexologie telle qu'on la pratique aujourd'hui est basée sur les travaux de Nissingham, largement promus par son neveu Dwight Byers. Les bienfaits de la réflexologie sont préventifs et curatifs. La réflexologie traite la personne dans son ensemble, corps, mental, esprit. C'est donc un soin holistique. Par des pressions manuelles, on travaille les zones plantaires ou zones réflexes. La réflexologie apporte détente, libération des tensions, elle soulage les douleurs, booste le système immunitaire, active la circulation sanguine et lymphatique et tellement d'autres super effets encore. Elle s'adresse à tout le monde, sauf quelques cas spécifiques, et à toutes les étapes de la vie. Grâce à la réflexologie, redonnez à votre corps ses pouvoirs d'auto-guérison.
Merci Christelle pour cette très belle chronique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr ou lors de la rediffusion le mardi 11 octobre à 21h. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. C'était Claudie sur Radio G 101.5 FM. Élise, Christelle et moi vous donnons rendez-vous vendredi 21 octobre à 13h pour vous faire connaître l'histoire de la savoureuse et parfumée carotte sauvage.